On la retrouve avec plaisir, Monique Kerouac. Bonjour, Monique.
Bonjour, Hélène.
Alors, Monique, vous avez trouvé un sujet dans la conversation?
Oui, tout à fait. C'est le deux chercheuses de l'Université de Saskatchewan qui vont nous parler, en fait, de l'importance de bien saisir la relation que les gens peuvent avoir avec leurs animaux, peut-être pour que les thérapeutes interviennent mieux auprès de ces personnes-là.
Oui, bonne idée, bonne intuition.
Ben, écoutez, c'est fort intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont deux personnes qui, ces chercheuses, qui, entre autres, sont des ergothérapeutes, mais aussi éthiciennes. Alors, l'association est assez surprenante, mais peut-être compréhensible. Alors, écoutez, on le sait, hein, Hélène, les animaux domestiques font désormais partie intégrante de la vie des gens. Certaines personnes ont un lien très fort avec leur animal, peut-être plus fort qu'avec leur fratrie et d'autres membres de leur famille. C'est pas notre cas, n'est-ce pas, vous et moi?
Non, mais je comprends ceux et celles qui sont profondément attachés à leurs petits animaux de compagnie.
Oui, alors semble-t-il qu'on peut ressentir plus d'empathie envers un animal qu'envers des humains. Ça dépend probablement de la nature des humains.
Oui, qui nous entoure.
Oui, c'est ça. Alors, selon un sondage, près de 90 % des Canadiens considèrent les animaux de compagnie non seulement comme faisant partie de la famille, mais aussi comme une source essentielle de soutien émotionnel. Alors, en tant que chercheuse intéressée par la psychologie des rapports entre humains et animaux, Mesdames Roma et Dadgar-Doust pense que ces résultats montrent qu'il est impératif de comprendre comment la relation avec les animaux domestiques façonne les habitudes des gens, façonne leur perception d'eux-mêmes, leur état émotionnel et leur capacité à surmonter différentes situations. Poser des questions donc sur les animaux de compagnie peut se révéler utile pour les professionnels de la santé mentale qui souhaitent mieux saisir la dynamique familiale de leurs clients, donc en explorant le rôle que les animaux y jouent. Ils peuvent obtenir des informations précieuses sur les facteurs qui influencent le bien-être d'une personne. En adoptant une approche centrée sur leurs clients, les thérapeutes doivent comprendre et reconnaître les différentes facettes, perspectives d'une personne. L'objectif est de travailler avec elle pour découvrir ce qui passionne les expériences, la vision du monde, ses forces et ses systèmes de soutien. Donc, lors d'une première rencontre et de l'évaluation, un thérapeute doit mettre l'accent sur l'écoute des besoins du client. Bon, ça nous paraît tout à fait naturel, mais c'est peut-être pas toujours le cas.
Oui, l'écoute, là, c'est quelque chose de précieux.
De très précieux.
C'est pas donné à tout le monde d'avoir ce talent.
Non, puis pour avoir fréquenté un médecin récemment, my God, on a du chemin à faire.
Oui, vous êtes pas senti écouté?
Ben. Je me suis sentie, en fait, je dirais, à demi écoutée.
Oh.
On n'avait pas le temps de s'y poser une question, on n'était pas sûr que c'était une question, et j'avais pas le temps de répondre adéquatement. Donc, on passait à une autre étape.
Oui. Communication un peu frustrante.
Oui, un petit peu. Alors, si le thérapeute néglige le rôle central que jouent les animaux domestiques dans sa vie, ben il risque de passer à côté d'éléments importants. En changeant de perspective, ben le thérapeute peut mieux saisir les émotions et les comportements d'une personne et lui offrir par conséquent un traitement mieux adapté et plus efficace. Des chercheurs ont constaté que les questions relatives aux animaux de compagnie peuvent non seulement réduire l'anxiété, mais aussi améliorer la communication et les relations. Les questions concernant les animaux de compagnie peuvent influencer l'orientation des interventions thérapeutiques de plusieurs manières. Alors, je vais vous décrire 5 manières différentes. D'abord, apporter du confort. Les questions sur les animaux de compagnie peuvent procurer un sentiment de familiarité et de réconfort. En fait, on s'intéresse à la vie de la personne autre que sa santé mentale ou physique dans ce cas-là. Donc, cela renforce l'alliance thérapeutique et favorise une atmosphère d'accueil. De nombreux couples considèrent, par exemple, leur animal comme un enfant. Les nouvelles générations préfèrent souvent les animaux domestiques aux enfants. En posant des questions donc sur les animaux de compagnie, les professionnels peuvent aider leurs clients à se sentir valorisés et considérés. Cette approche inclusive reconnaît une partie essentielle de son système social et crée un espace pour parler de la manière dont les animaux façonnent son identité. Deuxièmement, bâtir la confiance. En général, créer des liens avec un client, un patient, permet d'instaurer un climat de confiance. Celui-ci se sent alors plus à l'aise et enclin à partager des informations difficiles et personnelles. En discutant de la dynamique avec un animal de compagnie, il pourra peut-être aborder plus facilement certains sujets délicats. Ainsi, alors ça c'est assez étonnant, près de 90% des femmes victimes de violences conjugales déclarent avoir maltraité leur animal de compagnie. Oui, et les enfants victimes, alors là aussi c'est très touchant, de violences familiales, racontent souvent que leur animal a été maltraité.
Ouais, il y a comme un transfert.
Exactement. Alors, ils trouvent souvent plus facile d'évoquer la violence vécue par leur animal avant de parler de celle qu'ils subissent. C'est quand même important.
Oui. Ça ouvre des portes à la conversation puis aux confidences.
Exactement. Donc, l'importance de ce climat de confiance à créer. Troisièmement, offrir au client un aperçu de ses forces. Les animaux de compagnie peuvent apporter du soutien de plusieurs manières. Pour certaines personnes, passer du temps avec un animal dans les moments difficiles permet de diminuer l'anxiété et le sentiment de solitude. Pour d'autres, la présence d'un animal de compagnie facilite l'engagement dans des activités sociales et physiques. Entre autres, le lien avec l'animal peut accroître le sentiment d'appartenance et réduire les comportements autodestructeurs. En comprenant le rôle que joue un animal dans la vie d'un client, bien, les thérapeutes ont un aperçu de ses stratégies d'adaptation et des ressources dont ils disposent ou ne disposent pas et peuvent ensuite mieux planifier les interventions cliniques. Quatrièmement, offrir une vue d'ensemble des défis. Les animaux de compagnie peuvent avoir un effet positif sur la capacité d'attachement, mais parce qu'il y a toujours un « mais », un attachement fort à un animal est parfois associé aussi à un stress psychologique et à des enjeux de confiance. Certaines personnes peuvent ressentir de l'inquiétude et de la culpabilité lorsque leurs problèmes de santé affectent leur habileté à prendre soin de l'animal, ce qui peut aggraver leur détresse psychologique. Par ailleurs, la façon dont quelqu'un aborde et règle les situations liées à son animal, bien, ça peut donner une idée de sa capacité à résoudre les problèmes. Donc, l'exploration de ces domaines peut révéler des enjeux à cibler en thérapie. Et finalement, donc, le cinquième élément, identifier les sources de stress. La relation avec un animal domestique est complexe et peut fluctuer. Si l'animal présente des problèmes de comportement ou de santé, ben ça peut engendrer des obstacles à la vie sociale en réduisant les interactions sociales et en augmentant les émotions négatives de son propriétaire. En outre, le manque de moyens pour payer les soins vétérinaires peut nuire au bien-être d'une personne. Ces situations sont parfois associées à l'anxiété et au fardeau de l'aidant. Par conséquent, la dynamique avec un animal domestique peut directement influencer les sujets à aborder en thérapie. Donc, les questions relatives aux animaux de compagnie ne sont pas anodines. La structure des familles a évolué. Alors, dans le cadre d'approches thérapeutiques holistiques, donc systémiques, hein, une vue d'ensemble, et favorisant l'empathie, mon Dieu, on en parle beaucoup ces temps-ci,
oui,
de l'empathie.
Avec cette télésérie qui s'intitule Empathie.
Oui, est-ce que vous l'avez vue, Hélène?
Pas encore, ça viendra. Moi, dès qu'on parle de cette série-là, je passe mon tour parce que j'aime pas savoir de quoi il en retourne. Je sais que les questions de psychiatrie, là, puis de personnes qui ont des problèmes de santé mentale, mais sinon, je veux rien savoir d'autre. Mais j'ai hâte de voir.
J'ai vu le premier épisode parce que, bon, je ne suis pas abonnée à Crave, c'est un autre enjeu, hein, oui. Les abonnements. Et c'était fort touchant, en effet. Alors, donc, je disais, favorisons l'empathie. L'exploration de la présence d'animaux dans la vie des gens est essentielle pour instaurer un environnement d'acceptation, d'ouverture et de confiance. Donc, ne craignons pas de parler de nos animaux de compagnie lorsque nous sommes en présence d'un thérapeute ou d'un médecin.
Oui, et que le thérapeute et le médecin ne craignent pas aussi non plus de nous en parler.
Exactement. En fait, ils doivent apprendre à bien connaître la personne qu'ils ont devant eux et à considérer toutes les dimensions.
Oui, alors vous trouviez que le titre était quand même assez banal. Nos relations avec nos animaux de compagnie en révèlent beaucoup sur nous. Les professionnels de la santé mentale doivent en prendre bonne note. C'est un titre, ça.
Oui, mettons qu'on aurait pu dire quelle place occupe l'animal en regard de notre santé mentale, peut-être, je ne sais pas.
Un texte, c'est-à-dire un titre ordinaire, mais un texte absolument passionnant. C'est dans la conversation. Merci, Monique.
Ça fait plaisir, Hélène.
Alors, Monique, vous, le mois de mai, ça évoque quoi? Parce que j'en parlais avec Mathieu et Yvan en début d'émission. J'ai parlé de Lila, de Mugui. On pourrait parler de Rosée aussi.
Ah oui. En fait, le bourgeonnement.
Oui. Ah oui, ça a commencé, là.
Ah, ça a commencé. C'est incroyable. C'est à vitesse grand V, Hélène. Je regarde un érable, là, qui est de ma fenêtre. Et puis, hier, c'était minuscule comme bourgeon. Oui. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est rougeâtre. C'est vraiment magnifique. Mais le muguet, qu'est-ce que ça sent bon. Oui. Ça me rappelle ma grand-mère. De doux souvenirs, quoi.
Tout à fait. Et moi, ça me rappelle, entre autres, ma tante Flore. Ça sent bon, mais c'est aussi tellement joli comme fleur.
Oui, des petites clochettes.
Oui, tout mignon, tout délicat.
Oui, alors, mais paraît-il que c'est envahissant.
Oui, on n'est pas obligé d'en semer beaucoup là pour que ça prenne de l'ampleur.
Non, ça occupe pas mal de terre.
Oui. Alors Monique, moi je suis pas capable de ne pas me croiser les jambes. Parlez-nous-en, le croisement des jambes et ses effets sur la prise de pression et sur la posture. J'espère que ça va être positif là, mais je sens
écoutez,
que non.
En fait, est-ce qu'on aurait pensé que croiser les jambes, ça avait un impact sur notre santé?
C'est
d'abord une première question. Il semble-t-il qu'il y a peu d'études sur les raisons pour lesquelles les humains croisent les jambes. Par ailleurs, étonnamment, cette question a été étudiée par les cardiologues. Parce qu'entre autres, cette position augmente la pression sanguine, Hélène.
Ah.
Et peut-être parce qu'elle a aussi des effets négatifs sur la posture.
Oui, ça on peut l'imaginer, hein?
Ben, c'est ça. Je pense qu'une fois qu'on sait ça, on fait peut-être un petit peu plus attention. En tout cas, moi, je vais vous dire, depuis que j'ai trouvé cet article-là dans la presse, là, c'est le journaliste Mathieu Perrault qui a produit cet article. Je fais attention.
Vous y pensez donc, avant.
J'y pense, oui. Est-ce que se croiser longtemps les jambes peut augmenter la pression suffisamment pour accroître le risque d'événements cardiaques comme un AVC ou une crise cardiaque? Ben, le docteur Campbell, qui est interniste, pardon, ouais, de l'Université de Calgary, nous dit oui. C'est une augmentation assez importante, mais on ne sait pas combien de temps cette augmentation dure. La question a été étudiée parce qu'on ne voulait pas avoir une mauvaise lecture de pression lors d'une visite médicale. Alors, si vous allez à une visite médicale, croisez pas vos jambes avant, là.
Mais là, je ne croisais plus mes jambes jamais, là.
Donc, on ne sait pas si la pression demeure élevée quand une personne a les jambes croisées pendant une heure. Puis c'est un réflexe, comme vous le dites, hein, Hélène, on s'assoit, flou, on croise nos jambes. Puis surtout quand on attend dans la salle avant de voir un médecin, on n'est pas confortable. La première chose qu'on va faire, en effet, c'est de croiser nos jambes.
Ouais. Puis quand au restaurant, au spectacle, quand je vais voir un spectacle, je croise, je décroise. Je regarde mon voisin ou ma voisine qui n'a pas les jambes croisées, puis je comprends pas, je suis pas bien, moi.
Alors, l'étude du docteur Campbell a calculé que l'augmentation frisait 10 unités pour ce qui est de la pression systolique. Ça, c'est lors du battement cardiaque. Et 5 pour la pression diastolique. Ça, c'est entre les battements du cœur. Hein. À tout le moins, le fait de croiser les jambes quand on prend sa pression pourrait mener à une surprescription d'antihypertenseurs, parce qu'on sait que maintenant, bon, c'est plus au-dessus de 140, je pense qu'on a descendu à 130, là. Donc, si on est à 100, un peu plus de 130 lors de notre visite du médecin parce qu'on a croisé nos jambes, on pourrait baisser ça à 120 d'une certaine façon, oui. Là. Alors, je pense que ça vaut la peine d'y penser.
Oui.
Il y a une autre étude qui révèle que le croisement des jambes n'a pas d'effet par ailleurs du tout pour les gens qui ne font pas d'hypertension. Donc, déjà, ça nous soulage un petit peu, mais c'est sûr que ça peut, ça a un effet quand même lors d'une visite chez le médecin. Déjà que, on dit la chienne blanche, là, le sarrau blanc, c'est déjà,
un
ça
stress.
Fait déjà monter notre pression. C'est que...
Alors, vaut mieux prévenir que guérir.
C'est ça. Ensuite, il y a la question de la posture.
Ouais.
Il y a une poignée d'études en Asie ont, quant à elles, étudié l'effet du croisement des jambes sur le système musculo-squelettique. Et elles ont notamment avancé qu'il pourrait y avoir, avec une pratique fréquente, donc à chaque fois qu'on s'assoit, comme vous dites, Hélène,
ouais.
Un désalignement de la colonne, de la zone pelvienne et des épaules et des influences sur la longueur des muscles.
Oui, ça, je peux confirmer. Mon ostéopathe me rappelle de ne pas me croiser les jambes, de tenir un peu plus droite. Quand on est aussi dans un fauteuil, puis on se croise pas les jambes, mais on se met les jambes de côté, là, tu sais.
Oui.
Mais ça, c'est pas non plus recommandé, en tout cas, par mon ostéopathe.
Ouais, ben on devrait les écouter. Moi, en plus, moi, Hélène, je faisais un double tour. Je me croise la jambe puis je la recroise.
Okay. Mais ça vient pas faire l'effet contraire parce que finalement, ça peut être bon.
Je non. penserais pas, mais ça je le fais plus. Là, je me suis parlé, là, puis j'ai réussi à contrôler ça.
Monique.
Oui.
Bon, alors, ben merci pour toutes ces informations très, très pertinentes et pratiques. On va essayer oui. justement de faire attention quand on va avoir le goût de se croiser la jambe, notamment, pas notamment, mais pratiquement toujours. Alors, on passe à un autre sujet. Au 20e oui. siècle, les hommes ont-ils grandi plus vite que les femmes? Drôle de question.
Là, peut-être que si les femmes se croisent plus les jambes, ça a une influence, je ne sais pas.
Ah, est-ce que les femmes se croisent plus les jambes?
Ben non, je dis okay. n'importe quoi, là. Alors, ben oui, les hommes ont grandi plus vite. Très exactement, 2,76 fois plus vite durant la première moitié du siècle en Grande-Bretagne.
Ah.
Alors, une tendance qui est confirmée par l'analyse des données de 61 autres pays. Pourquoi? Mais les chercheurs ont constaté que l'amélioration des conditions de vie semble avoir un effet plus prononcé sur l'organisme des hommes. Mais on peut se rappeler, Hélène, ou bien se dire, ou en tout cas, que les femmes choisissent de préférence pour partenaires de grands gaillards dont la taille est signe de santé et de vitalité. Peut-être que ça les motive à grandir.
OK, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils ont mangé plus de légumes que nous.
Non,
mange
non,
tes légumes si tu veux grandir.
Oui.
Les insectes font leur cinéma. Ça, c'est un beau titre.
Oui, c'est un magnifique titre. C'est une invitation, en fait, des insectes de Montréal et des environs sont les vedettes d'un film, Hélène. Insecta Mundi, je suis l'animal de la forêt, et c'est du réalisateur Frédéric Lavoie. La vidéo, projetée sur grand écran, en fait sur écran géant, à la Biosphère, prenez note, à la Biosphère jusqu'au 28 septembre, est le point focal d'une nouvelle exposition visant à valoriser les insectes pour contribuer à leur protection. Contrairement à de nombreux documentaires animaliers qui montrent un monde en train de disparaître, cette exposition, ben, c'est positif. Elle est positive, révèle un monde bien vivant et fascinant à observer. Alors, si vous allez sur le site de la Biosphère, vous allez avoir toute l'information sur ce titre. Insecta Mundi, je suis l'animal de la forêt.
Oui, juste aller faire un tour sur l'île Sainte-Hélène, là, ça vaut le détour. La Biosphère, c'est un endroit formidable.
Exactement, c'est tellement beau,
oui.
avec
Monique,
le fleuve.
Tout à fait, allons-y.
Oui.
vous terminez avec une capsule linguistique, il reste une cinquantaine de secondes.
Alors, c'était une demande
gardez le focus.
Cher vous, Hélène.
Ah, Monique, gardez le focus.
Focuser. Alors, les emprunts se focuser sont déconseillés en français pour parler de personnes ou de choses ou d'événements qui se concentrent sur un point précis. Alors, Hélène, il y a des suggestions de remplacement. Ce n'est pas en se focusant, non, en se concentrant sur les détails qu'elle réglera le problème. Oui. La réunion a porté essentiellement et non pas focusé sur les prochains départs. Quant à l'adjectif focusé, il signifie souvent déterminé en parlant d'une personne. Alors, Juliette est la personne la plus déterminée et non pas focusée. Et finalement, être focusé, c'est aussi une...
Ah! Non, restez là!